La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Ok, on a fait le top horaire, on a fait le générique, l'animateur a pris la parole, maintenant que fait-on ? Il semblerait qu'une musique soit en train d'être jouée en guise de fond sonore, et elle ne semble pas prête à s'arrêter. Serait-ce une tentative de passer un message à la personne qui a actuellement la parole et qui se trouve être l'animateur de ce soir, pour lui signifier qu'il faut qu'elle commence à parler et lancer son édito ? Je vous avoue que j'en sais trop rien. À vrai dire, je viens d'arriver, je ne sais pas vraiment ce que je suis ni ce que je fais là. On m'a montré le micro, on l'a mis devant ma bouche sans me donner plus d'explications que ça. Si je suis censé parler, je présume que je fais bien mon boulot. Si je suis censé ne rien dire, alors là il est évident que c'est ni plus ni moins qu'un gigantesque fiasco. Si je suis censé bien parler, alors laissez tomber comment que c'est un énorme échec quoi. En tout cas, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il est 19h, qu'on est sur Radio Campus Paris et que c'est le début de l'estival de 19h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez Radio Campus Paris, je suis Gauthier. Bienvenue dans l'estival de 19h. Au programme ce soir, nous recevons Guillemette Soucaché, coordinatrice de Pas de Santé sans Toi au sein des Médecins du Monde. Après une pause musicale, nous recevrons Mudiyama pour nous parler de l'événement qu'elle organise jeudi, un hors les murs de son émission The Beat the Culture, à retrouver en direct sur nos ondes. Ensuite, Guillaume viendra nous parler d'astrologie dans sa chronique. Et pour terminer, un certain Gauthier fera sa chronique humoristique. L'estival de 19h de ce lundi 15 juillet 2024, c'est parti.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Pour commencer cette émission, nous recevons Guillemette Soucaché. Bonsoir.
Bonsoir.
Et l'entretien sera mené par Lucie. Bonsoir Lucie.
Bonsoir.
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 Donc déjà, dans un premier temps, je voudrais juste que vous vous présentiez, s'il vous plaît.
Alors du coup, je suis Guillemette Soucaché et je suis coordinatrice d'un programme au sein de Médecins du Monde qui s'appelle Pas de Santé sans Toi, T-O-I-T à la fin. Et c'est un programme qui intervient auprès de personnes isolées à la rue qui ont des problèmes de santé. Et on fait partie, au niveau de Médecins du Monde, d'un collectif qui s'appelle Le Revers de la Médaille, qui est un collectif qui cherche à alerter sur les conséquences des Jeux Olympiques sur les personnes en situation d'exclusion.
Et pourquoi du coup un collectif d'associations ?
L'idée, c'était d'être le plus nombreux possible à dresser des constats sur donc les JO et leurs impacts, notamment parce qu'en fait, ils ont des conséquences sur plusieurs populations assez différentes. Donc, il y a les personnes isolées à la rue, par exemple, dans le cadre de mon programme, mais il y a aussi des personnes, par exemple, travailleuses du sexe, qui, du coup, vont aussi subir les effets des Jeux Olympiques, mais ça peut être aussi les personnes exilées. Ça peut être des personnes consommatrices de drogue, ça peut être des personnes qui vivent en bidonville. Enfin, c'est tout un panel en fait, de population qui est concernée. Et du coup, pour ça, pour documenter et pour alerter sur toutes ces situations, on avait besoin de plusieurs organisations, associations de terrain. Et du coup, aujourd'hui, on est à peu près une centaine dans le collectif Revers de la Médaille, avec des grosses associations type Médecins du Monde, type Emmaüs, et des associations un peu plus locales, un peu plus petites. Mais du coup, ça nous permet voilà, d'avoir vraiment des perspectives différentes sur un sujet commun.
Là, vous parliez des travailleurs du sexe. Qu'est-ce qui fait que les travailleurs du sexe vont être particulièrement impactés par les Jeux Olympiques ?
Il y a notamment le fait qu'il y ait une présence policière accrue. On le voit, je pense, un peu nous tous en ce moment dans Paris, mais c'est particulièrement le cas dans certaines zones où certaines travailleuses du sexe sont très présentes, du type le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Et ce qu'on observe, par exemple, au niveau du bois de Vincennes, c'est qu'il y a une forme de harcèlement policier. C'est comme ça, en tout cas, que nous, on estime que ça devrait s'appeler, dans le sens où il y a des policiers qui viennent en fait très très régulièrement voir du coup ces personnes et qui peuvent parfois être même violents en fait avec elles, alors que la loi en théorie est censée, là c'est une communauté notamment nigériane, est censée protéger en fait ces personnes, puisqu'on considère qu'une partie d'entre elles est victime de la traite des êtres humains, et du coup bien évidemment la solution c'est pas de les harceler, de les frapper, de les insulter, de les menacer, etc. Mais bien de les protéger, parce qu'elles aussi ont des droits, quelle que soit leur situation et leur profession.
Et au vu du contexte politique actuel, est-ce que vous avez remarqué dans vos actions qu'il y a une sorte de recrudescence d'actions violentes ou alors d'harcèlement, je ne sais pas, pour vous ou alors d'autres membres du collectif ?
Vous faites référence du coup à la montée de l'extrême droite?
Oui.
Ça serait difficile de lier ce qu'on observe sur le terrain avec la montée de l'extrême droite. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, on en est tous témoins, dans l'atmosphère générale, effectivement, il y a une forme de liberté de parole raciste, misogyne, etc., qui est assez dingue. Mais nous, sur le terrain, vis-à-vis des personnes qu'on accompagne, je suis pas sûre que ce soit vraiment directement lié à la montée de l'extrême droite. Par contre, malheureusement, la situation s'aggrave pour plein de raisons différentes. Mais si on reprend l'exemple des personnes à la rue, il y en a de plus en plus. Leurs profils sont de plus en plus divers. Là où il y a quelques années, c'était surtout des personnes, des hommes par exemple, seuls et assez vieillissants. Aujourd'hui, on est sur des femmes, on est sur des enfants, on est sur des tout-petits. On est sur des personnes exilées françaises. Enfin, vraiment, tout le monde, en fait, aujourd'hui, est concerné par le mal-logement. Ce qui est sûr, c'est que si l'extrême droite arrive au pouvoir, ça n'ira pas mieux pour ces personnes. Mais voilà, c'est pas que parce que l'extrême droite est en train de monter que ces personnes sont dans cette situation.
Alors, oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que... est-ce que, du coup, il y a encore plus... est-ce que dans vos actions, vous êtes, on va dire, un petit peu stoppés, je veux dire, harcelés, du coup, par ces gens d'extrême droite?
Nous, dans nos actions, là, par rapport au JO, pas spécialement, aussi parce que, bon, à la fois, bien sûr, ce sont des actions qui sont politiques, forcément, mais c'est pas des actions qui, par exemple, ne concernent que des personnes exilées. Après, mais ça remonte à un peu avant, là, tout ce collectif, etc., mais il y a l'association Utopia 56 qui intervient donc exclusivement auprès des personnes exilées, qui, elle, a déjà subi, oui, des intimidations, des menaces... Et malheureusement, ça ira sûrement en s'accentuant.
D'accord. Et c'est quoi, d'ailleurs ? Enfin, comment est-ce qu'elles se traduisent d'ailleurs vos actions ?
Dans le cadre du revers de la médaille ?
Oui.
Pour l'instant, on a organisé 6 actions. Il y en a une 7e qui va avoir lieu ce soir d'ici quelques minutes. On insiste pas mal là-dessus, systématiquement des actions non violentes. Qui se veulent aussi très militantes, joyeuses, participatives, vraiment tout le monde... y est convié. Y en a eu plusieurs. Elles se veulent à chaque fois un peu spectaculaires, dans le sens où l'objectif, c'est vraiment d'alerter les médias pour ensuite alerter les pouvoirs publics et essayer d'obtenir des choses très concrètes pour les personnes qu'on accompagne. Donc encore une fois, les personnes à la rue, les travailleuses du sexe, les personnes consommatrices de drogue, etc. Un des exemples que je peux vous citer, c'est il y a quelques mois, on a organisé c'était devant le Sacré-Cœur. Et on a organisé, on était une centaine, en fait on a déplié des banderoles sur lesquelles on pouvait lire par exemple bidonville, personne à la rue, etc. Et on a déversé sur ces banderoles, donc le long des escaliers du Sacré-Cœur, des couleurs vives qui du coup sont les couleurs des Jeux Olympiques. Et l'idée c'était de montrer qu'en fait les Jeux Olympiques sont un vernis sur toutes ces problématiques sociales. Et que là où nous, on estime que les Jeux Olympiques auraient pu aussi permettre, parce que voilà, c'est une fête, donc ça peut l'être pour tout le monde, ça aurait pu être l'occasion de traiter vraiment les difficultés qu'une partie du coup des populations qu'on accompagne traverse. Mais non, on a fait le choix de cacher en fait tout ça, plutôt que pour les personnes à la rue, de proposer des hébergements, pour des femmes travailleuses du sexe, de leur assurer la sécurité. Enfin voilà, on aurait pu faire des choix très très différents, et nous on estime qu'on peut toujours les faire, mais pour l'instant c'est pas le cas.
Et j'imagine que du coup ce problème a dû aussi être rencontré par les précédents Jeux Olympiques dans d'autres pays. Est-ce que vous avez travaillé un peu dessus ?
Oui, en fait, on est parti du constat que, il y a beaucoup d'études qui montrent que tous les Jeux Olympiques jusqu'à présent ont contribué à exclure encore plus des personnes qui, de base, étaient en situation d'exclusion. Ça a été le cas, par exemple, pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont participé en fait à l'expulsion de plusieurs milliers de personnes. En dehors du coup des futurs sites olympiques, ça a été le cas aussi, ça a été très étudié pour les Jeux Olympiques de Rio, qui pareil ont du coup, très concrètement, il y a des favelas en fait qui ont été rasées pour pouvoir construire des piscines olympiques, des stades olympiques, etc. Et encore une fois, ça pourrait être l'occasion de, si on rase des favelas, en soi personne ne rêve de vivre dans une favela, mais on aurait pu se dire du coup c'est l'occasion de créer de l'habitat digne, de l'habitat salubre, et non en fait on se contente de repousser éternellement les personnes. Et ça, on l'a observé à l'étranger et on l'observe à Paris. Et le terme de nettoyage social que nous, on utilise, en fait, on l'a tiré justement des études qui ont été faites dans beaucoup de pays. Et le phénomène est un peu moins impressionnant en termes de nombre à Paris, mais il est exactement le même. L'idée, encore une fois, c'est de cacher.
Est-ce que vous avez du soutien des citoyens français ?
Globalement, je dirais qu'en tout cas sur nos réseaux sociaux, oui, les gens sont plutôt très positifs par rapport à l'alerte qu'on a lancée. Moi, ce que je trouve assez chouette, c'est que forcément, nous, on s'est concentré sur Paris parce que c'est là où la majorité des épreuves des JO vont avoir lieu. Mais pour bouger un peu partout en France, j'entends que... En fait, un peu partout en France, les gens sont alertés sur justement ce nettoyage social. Et c'est chouette de se dire qu'on a réussi à parler pas uniquement aux Parisiens, mais bien à bon, l'ensemble de la France est un peu prétentieux, mais en tout cas des personnes qui sont sensibles à ces sujets un peu partout en France.
Et du coup, j'imagine que du coup, ce collectif n'existera plus après les Jeux Olympiques ? Ou est-ce que vous avez prévu d'exister encore sous une autre forme, je sais pas.
C'est toute la question du moment. Là où, pour être très honnête, on n'a pas obtenu autant qu'on l'espérait de la part des pouvoirs publics. On a pourtant beaucoup sollicité de réunions. On a nous-mêmes participé à beaucoup de réunions avec différents ministères, avec les préfectures, avec la ville, etc. Il y a peu de choses très concrètes qui nous ont été données. Mais par contre, on se concentre sur l'aspect très positif de toute cette mobilisation qui dure maintenant depuis un peu plus de 6 mois, presque un an. C'est qu'on a réussi justement à travailler ensemble, donc encore une fois une centaine d'organisations, avec parfois des objectifs différents, avec parfois des fonctionnements différents, des modes d'intervention différents. Et malgré tout, on a réussi à s'entendre sur un sujet, sur un objectif. Et ça, effectivement, on aimerait capitaliser dessus. Pour continuer la lutte, continuer l'action, toujours de manière militante et joyeuse.
Vous dites que vous n'avez pas eu beaucoup de résultats concrets. C'est quoi les résultats que vous avez eus malgré tout ?
Alors c'est toujours difficile dans toute campagne de plaidoyer parce que là on est vraiment sur un objectif de plaidoyer, donc on cherche à faire changer les choses, de savoir exactement ce qu'on a obtenu ou non, dans le sens où parfois c'est pas tout de suite mais un peu après, et parfois il y a des conséquences indirectes qu'on maîtrise pas forcément. De manière directe, honnêtement, il n'y a pas grand chose qu'on a pu obtenir, à part peut-être, mais pareil, je pense qu'on y a contribué plus que, c'est une conséquence unique. On a réussi à obtenir l'ouverture d'un lieu pour MNA, pour les mineurs non accompagnés, qui sont du coup des personnes donc mineures, des enfants, qui viennent de pays étrangers et qui ont traversé en général beaucoup de pays pour arriver du coup tout seul en France et être protégés. Et jusqu'à présent, en fait, il n'y avait pas de structure publique destinée à accueillir, enfin, il n'y avait pas d'accueil de jour en fait pour ces MNA. Et du coup, aujourd'hui, il y en a un. Donc ça, nous, on estime que c'est une vraie victoire. Et par ailleurs, l'autre victoire, et on espère que justement ça va se poursuivre, c'est le fait d'avoir réussi à imposer dans l'agenda médiatique et malgré tout un peu politique, parce que la ministre des Sports a répondu à cette question du nettoyage social, on a réussi à faire parler des personnes à la rue, qui est un sujet qui nous concerne, moi j'en suis persuadée tous, enfin toutes et toutes, si on habite à Paris, on peut être que concerné en fait par les personnes à la rue. Mais malgré tout, c'est un sujet qu'on a du mal à politiser. Donc voilà, là au moins pendant plusieurs mois, il y a eu des centaines et des centaines d'articles, parce que ça a beaucoup beaucoup rayonné en dehors de la France, sur le sort des personnes à la rue en France pendant la période des Jeux Olympiques, mais aussi avant et après les Jeux Olympiques, parce que le problème, on le sait, il n'est pas circoncis à cette période très particulière des Jeux.
Et d'ailleurs, vous travaillez avec des organisations à l'étranger ?
Sur ce sujet précis des Jeux Olympiques, alors du coup, on a été en lien au niveau du collectif Revers de la Médaille avec le Canada, qui a aussi du coup accueilli des Jeux Olympiques il y a quelques années et qui avait fait exactement les mêmes constats. Donc il y a certains membres du collectif Revers de la Médaille qui sont allés au Canada et il y a des membres du Canada qui sont du coup venus chez nous pour partager leur expérience. Et là aussi où nous, on a... réussi à alerter un peu au-delà de nos frontières, c'est que il y a un membre des Nations Unies qui a repris en fait un rapport qu'on a sorti il y a quelques semaines, quelques mois, sur justement l'état du nettoyage social et qui a alerté en fait l'État français du coup sur ce nettoyage social en demandant que ça s'arrête à minima et que ce soit derrière documenté pour que aussi les futurs Jeux Olympiques et ça, on l'espère que ce sera une autre tombée positive de notre plaidoyer, soient plus attentifs à toutes ces personnes en situation d'exclusion et qu'elles soient vraiment prises en compte dès l'organisation des Jeux et pas un peu au dernier moment comme là, c'est le cas.
Et est-ce qu'on peut vous souvenir, nous, à notre échelle ?
Très bonne question. Alors, vous pouvez nous soutenir, ne serait-ce qu'en nous suivant sur les réseaux sociaux. Donc, on a une page Instagram qui est vraiment très bien alimentée, très régulièrement. Et de nouveau, ce soir, on aura une petite action. Donc voilà, il y aura du nouveau sur cette page. Ça s'appelle Le Revers de la Médaille, tout attaché, tiré du bas, Paris. Sinon, vous pouvez aussi faire des dons à toutes les associations qui composent Le Revers de la Médaille. Pareil, vous pouvez taper sur Google Le Revers de la Médaille, vous verrez une liste du coup d'une centaine d'organisations, vous prenez celle que vous souhaitez, on a tous globalement besoin de soutien. Et dernière chose peut-être, voilà, n'hésitez pas à militer, n'hésitez pas à vous engager, il y a énormément d'associations qui existent à Paris, il y en a forcément une qui vous correspond, et dans le public qu'elle accompagne, et dans voilà, le mode d'intervention. Donc surtout n'hésitez pas, et dernière des dernières choses, votez bien.
Alors on va continuer cet entretien juste après une pause musicale. On va écouter J'aime le tennis de Oldelaf.
Deux hommes qui frappent de tous leurs bras, de toutes leurs cuisses. Moi j'aime le tennis. Moi j'aime le tennis. Un passing shot, revers croisé, un match serré, 6-3, 3-6. C'est l'été, il fait chaud, on transpire. Les corps brillent, les corps brûlent, c'est pas pire. Ou une banane, on change de sens, regard complice. Moi j'aime le tennis. Moi j'aime le tennis. Un match qui dure, un cinquième set, du plaisir pur, 4h27. C'est l'été, il fait chaud, on transpire. Les corps brillent, les corps brûlent, c'est pas pire.
C'était Oldelaf, j'aime le tennis, dans la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Nous sommes toujours avec Guillemette Soukaché, qui est coordinatrice des associations de Pas de Médecins Sans Toi.
Du programme Pas de Santé Sans Toi.
Pas de Santé Sans Toi au sein de Médecins du Monde. Et Lucie, je te relaisse la parole.
Oui, bien sûr. Alors moi, du coup, j'avais une question un peu perso. La question, c'est qu'est-ce qui, du coup, vous a motivé à vous engager ?
À Médecins du Monde ?
Ouais.
C'est une très bonne question. Moi, j'ai découvert Médecins du Monde un peu par hasard parce que j'ai été recruteuse de donateurs, donc les personnes qui demandent de l'argent dans la rue pour Médecins du Monde. Et du coup, j'ai eu un petit brief sur Médecins du Monde. Et ce qui m'a convaincue, entre autres, c'est que c'est une association qui a à la fois des actions de terrain. Donc là, par exemple, nous, on a des maraudes auprès de personnes isolées à la rue à Paris. Et en même temps, c'est une association. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire parce qu'il faut avoir une vraie indépendance financière. C'est une association qui fait du plaidoyer, donc qui cherche vraiment à changer les choses en profondeur au niveau des lois, au niveau du traitement médiatique de certaines populations, au niveau de l'accompagnement de certaines populations, de l'argent qu'on met dans cet accompagnement. Et ça, du coup, c'est hyper intéressant et on le voit, par exemple, dans le cadre du revers de la médaille, on a vraiment des actions de terrain où on cherche à accompagner les personnes de manière extrêmement concrète et on a des actions un peu plus politiques. Et ça, du coup, ça m'a vraiment donné envie de m'engager parce que j'ai la chance dans mon quotidien de à la fois pouvoir parler à des personnes à la rue pour mieux comprendre leur quotidien et en même temps, j'ai la chance de pouvoir rapporter leurs paroles ou aller avec elles directement à des réunions avec la mairie de Paris, avec la préfecture, avec éventuellement des ministères. Enfin voilà, il y a vraiment les deux côtés qui pour moi étaient hyper importants dans un engagement militant et du coup, je me sens utile. Enfin, je crois. Du coup, c'était quelque chose qui me tenait à cœur.
Et comment est-ce qu'elle s'est faite, du coup, cette fusion avec toutes ces organisations ? Comment est-ce que ça s'est décidé ?
Ça s'est décidé, en fait, un peu au fur et à mesure. Il y a eu un premier appel, donc il y a eu une toute première action qui a été menée. C'était de mémoire en septembre ou en octobre. Là, ça a été une action d'affichage où on a du coup affiché des pancartes qui reprenaient les slogans des Jeux Olympiques, donc toujours plus loin, toujours plus fort, mais de manière un peu détournée, donc toujours plus loin dans l'expulsion des personnes à la rue. Toujours, l'idée c'était un peu de détourner ça. Et là, il y avait, je dirais, une vingtaine, trentaine d'organisations. Et ensuite, il y a eu un premier communiqué qui a été signé, où on a appelé du coup d'autres organisations à se joindre à nous, à ces premières organisations signataires. Et ça a convaincu pas mal de personnes parce que notre plaidoyer se veut assez large, dans le sens où on répète qu'on n'est pas contre les Jeux Olympiques dans l'absolu. Par contre, on est contre le fait que les Jeux Olympiques aient des conséquences négatives sur, encore une fois, les personnes de base les plus exclues de nos sociétés. Et du coup, ce qu'on demandait, c'était finalement qu'elles soient prises en compte de A à Z dans le processus olympique. Donc ça a forcément motivé pas mal d'organisations.
Vous aviez parlé, avant la pause musicale, vous aviez beaucoup parlé de nettoyage social. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est et concrètement ce que ça implique et comment c'est appliqué ?
Alors, une définition du nettoyage social, ça serait le fait d'exclure, de Paris, puisqu'on parle de Paris, les populations jurées indésirables, avec énormément de guillemets. Donc moi je vais parler surtout de ce que je connais, les personnes isolées à Paris, les personnes isolées à la rue, pardon, et ça va passer par exemple par une présence policière renforcée qui va parfois amener une forme de harcèlement policier dans le sens où par exemple il y a des policiers qui vont venir tous les jours sur le même lieu de vie d'une même personne jusqu'à ce que cette personne, sans qu'elle soit forcément contrainte de le faire dans le sens où elle n'aura pas une amende ou une demande officielle, mais au bout d'un moment d'elle-même en fait elle va partir parce qu'elle va bien comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue. Donc ça peut être le cas pour des personnes isolées, ça a été aussi énormément le cas malheureusement pour des personnes qui habitaient en collectif. Donc ça peut être par exemple des squats, il y en a peu à Paris intramuros, mais par contre il y en avait, parce que maintenant il n'y en a plus beaucoup, mais il y en avait pas mal aux alentours de Paris, et tous ces sites ont été du coup expulsés, parce qu'il y en a une partie qui était par exemple dans le 93, où il y a du coup des épreuves qui auront lieu, et le village olympique qui a été construit. Et là, donc très concrètement, en fait, il y a des personnes qui vivaient là parfois depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, à qui on a demandé de partir un peu du jour au lendemain, sans forcément de solution d'hébergement derrière. Et du coup, bah, c'est du nettoyage, entre guillemets, dans le sens où, bah, où les personnes sont véritablement parties en région parce qu'il y a des solutions qui étaient proposées plus ou moins adaptées, ou en fait, elles se sont de plus en plus éloignées. Donc, elles ne vont pas être au premier pont derrière Paris, mais au deuxième pont. Et une fois que ce deuxième pont va être expulsé, ce sera le troisième pont, etc. etc. Donc voilà, encore une fois, une volonté de cacher la misère et non pas de la résoudre de manière intelligente et surtout pérenne.
Alors c'est une question peut-être un peu naïve, mais comment faire donc pour résoudre cette misère ?
Alors il y a beaucoup de choses à faire. Une des premières revendications que nous on avait là spécifiquement sur les Jeux Olympiques, c'était que s'il y avait des personnes qui devaient être déplacées, que ce soit à minima fait en concertation avec les personnes bien sûr, mais aussi avec les associations qui les accompagnent. À Paris, il y a énormément d'associations qui interviennent auprès de personnes à la rue. On connaît très bien les personnes parfois qu'on accompagne depuis des semaines, des années. Et du coup, quand du jour au lendemain, alors qu'on a accompagné une personne pendant aussi longtemps, on découvre qu'en fait on lui a demandé de partir manu militari, ça rompt le lien forcément que l'association peut avoir noué avec elle. Donc une des demandes, c'était vraiment que nous, associations et personnes concernées, on soit consultés avant toute procédure d'expulsion. Et après, de manière plus large et là plus ambitieuse, nous, ce qu'on demande, et là, ça fait des années, ça dépasse vraiment le cadre des JO, c'est beaucoup plus de moyens, en fait, dans la prise en charge des personnes de manière générale mal logées, notamment pour permettre à ces personnes d'avoir à minima un hébergement, donc au moins un endroit, une chambre, peu importe, mais un endroit pour dormir, pour se reposer, pour être en sécurité, pour prendre soin de soi. Et ce qu'on demande aussi, c'est une fois que ces personnes sont en hébergement, qu'elles puissent accéder à un logement, donc comme vous et moi, et on sait l'importance du logement pour, pareil, se reposer, avoir une vie, éventuellement pouvoir travailler, toutes ces choses qui sont absolument indispensables, et le logement est la première pierre à l'édifice de toute cette vie. Mais pour ça, il faut une vraie volonté politique, donc beaucoup, beaucoup plus d'hébergement, et beaucoup plus de logements, et malheureusement, il y a... un nombre stable d'hébergements, donc ça répond pas à la demande croissante, et le nombre de logements sociaux qui sont construits est de moins en moins important, donc on répond ni à un besoin ni à l'autre.
Moi, je vais revenir plus spécifiquement sur le cas des violences policières. Comment est-ce que du coup, en tant que militant, en tant que personne qui travaille du coup pour ces organisations, on peut lutter aussi contre ça ?
Alors, une des premières manières de le faire, c'est de documenter. De vraiment documenter ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir, après, preuve à l'appui, aller du coup voir telle autorité en disant bah, là c'est pas normal, là c'est en dehors du cadre légal, là ça respecte pas, parce qu'il y a des lois en France, Dieu merci, il y en a encore pas mal, et du coup il y a pas mal de choses qui se font en dehors de ces lois, donc c'est déjà important de pouvoir le prouver. Et ensuite de pouvoir essayer de changer les choses ou dans les pratiques, par exemple des policiers qui interviennent à Paris ou carrément dans les textes de loi, donc là c'est autre chose. Et de manière très concrète, à Paris il y a une association qui s'appelle le collectif d'accès aux droits, le CAD, qui cherche spécifiquement justement à lutter contre les violences policières faites aux personnes exilées. Qui vivent notamment à la rue, qui vivent en campement, qui vivent en squat. Et ils ont notamment sorti un rapport là en début d'année qui est hyper intéressant et qui peut donner des idées aussi pour s'engager.
Est-ce qu'on pourrait savoir quelle sera l'action ce soir ?
Alors je regarde l'heure qu'il est, 19h29, vous ne pourrez pas savoir. Mais je vous invite à vraiment suivre la page Instagram du coup du revers de la médaille. Vous aurez toutes les infos dessus et on espère que ce sera un peu repris au niveau médiatique. Mais en tout cas, ça sera une action comme toutes celles jusqu'à présent, vraiment militante et qui vise à dénoncer l'impact des JO sur toutes les personnes qu'on accompagne.
Par rapport aux actions que vous effectuez, est-ce que justement vous parliez que vous parliez du fait que vous espériez avoir un retentissement médiatique, est-ce que vous arrivez à en avoir un ?
Honnêtement, oui. Autant on est vraiment très déçus sur ce que nous ont proposé le comité d'organisation des Jeux Olympiques, sur ce que nous ont proposé les différentes institutions publiques, autant au niveau médiatique, on a eu un vrai, vrai écho, à la fois en France et au niveau international. On a environ 700 reprises presse de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce qui est beaucoup, surtout sur un sujet, encore une fois, dont on parle assez peu le reste du temps. Donc ça, on est très contents et on a notamment des grands magazines, grands titres à l'étranger, du type le New York Times, El País, enfin voilà, tous les grands quotidiens qui ont vraiment documenté justement ce phénomène de nettoyage social. Et en France, on a eu beaucoup d'interviews télé, de reportages presse. Il y a eu notamment un très beau reportage de la part de Libération qui a vraiment creusé les situations de tous les publics dont on parlait, donc les travailleuses du sexe, les personnes usagères de drogue, les personnes à la rue, et qui a cherché pour chacune de ces populations à comprendre en fait les difficultés accrues qu'elles rencontraient pendant les Jeux Olympiques. Donc oui, au niveau traitement médiatique, on est plutôt content, mais pour ça, il a fallu qu'on fasse vraiment des actions extrêmement visibles, qui réunissent beaucoup, beaucoup de personnes. Donc c'est aussi énormément de travail derrière.
Et ces actions, du coup, elles sont faites par des bénévoles ou alors des personnes qui travaillent du coup dans ces associations ?
Un peu les deux. Il y a des personnes qui n'étaient pas forcément salariées ou même bénévoles d'associations avant qui nous ont rejoints, mais c'est vrai que la majorité sont quand même plutôt salariés, bénévoles. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines associations qui n'étaient pas coutumières de ce type d'action. Nous, à Médecins du Monde, parce qu'on a cette dimension plaidoyer, on a déjà eu l'occasion de faire des actions un peu coup de poing. Mais il y a certaines associations du collectif pour lesquelles c'était pas le cas. Et du coup, c'était très chouette aussi de pouvoir un peu changer de mode d'intervention et de pouvoir se réunir en dehors de réunions très formelles qui ont aussi leur importance, bien sûr. Mais voilà, là, ça permet de multiplier un peu les modes d'intervention et c'est à la fois efficace et sympathique.
Bah merci beaucoup, Guimetsu Kaché, d'être venu nous parler du collectif d'associations Revers de la Médaille. Vous avez peut-être quelque chose à dire pour conclure ?
À part de regarder l'Instagram du Revers de la Médaille ce soir pour en savoir un peu plus sur l'action et sur ce qu'on fait, et de pas hésiter à rejoindre toutes les organisations qui composent ce collectif.
Bah merci beaucoup, et merci beaucoup Lucie pour l'interview. Tout de suite, on va écouter Balade de Azinin dans l'estival de Radio Campus Paris. Been waiting a long time for this shit. Long time no see. Thought you got rid of my ass, huh? Alright, here's what we're gonna do. You take this, or I put a bullet between your fucking eyes. Here, we'll split it. Half an Ativan, I'm driving straight out of van. In a black sedan, fast as I can. In Pakistan, getting chased by Pakistans. You know how I roll, bitch, I'm an avalanche. It's my set, I'm gonna spit it how I wanna spit it. Whoever gets offended, suffer dick and fuck a critic. About to get retarded on this motherfucking shit. You can't say retarded. Shut up, midget. Shut up, midget. Been trying to break the habit of saying any R words. But I'm still an addict, so it's getting harder. Been calling bitches hoes since a kindergartner. Since Jimmy Carter, now I'm kitty cornered. Sitting in PC court with a shitty lawyer. Like, damn. You got an addiction, man. I know you can't get rid of me forever, cause you know that I'm prescription, man. God damn, I miss you, Slim. You got an addiction, man. I know you can't get rid of me forever, cause you know that I'm prescription, man. Next time I'll be in your van. Was just a kid from Detroit who knew how to destroy the booth and had a point to prove. In a missing venomous still I poison youth sentences. I'm penning art just a toy with you, which is a joy to do. Slim is just a lyricist, hear the voices, true sentiments. Got the women pissed and it seems like men are just off growing a huge clitoris. Pussies, yeah, I probably annoyed a few feminists. I reminisce on them blowing a fuse over my points of view. Still I'm devoid of two shits to give. My thinking is primitive, but when it comes to giving it to anybody, boy is Bruce generous. And about as much of a boy is Bruce generous. Cause I'm not a boy, I'm a man, bitch. Man, bitch. My speech is free, it's his choice to choose gender is. Man. This shit is like opioid abuse, isn't it? Yep. You got an addiction, man. I know you can't get rid of me forever, cause you know that I'm prescription, man. God damn, I miss you, Slim. You got an addiction, man. I know you can't get rid of me forever, cause you know that I'm prescription, man. Next time I'll be in your van. There's times when I lay down to sleep, I argue with myself. Am I the only one who thinks this way too? I need help. Just a little bit, no, a lot of it. I really, really gotta quit. Something's wrong with me, my God. Old habits die hard. Look at you. What's the matter with you people? You're sad that people are mean? Well, I'm sorry, the world isn't one big liberal arts college campus. You, you're all pricks. Mom shaming, dad shaming, yeah. Fat shaming, mansplaining, blah.
crybabies attack shady. Wah, mad cause they can't tame me. They come to censors like the Avengers, and they assemble like prince and intern. A word like ginger into the N word. All these pronouns I can't remember. They of them theirs, his or him hers. Into them girls who bought tits to get attention, then get hit on by ugly men who are not in your league, so you pretend you're a victim and meet to them. Outrage, how fake. Nowadays some gals they just clout chase. Look at me with sour grapes and your brow raised. Bitch, you ain't about head, about face. Little white middle age, upper middle class, with a glass of wine and your cigarette. Bitch, get off the internet. You ain't even fed your kids dinner yet. Parental discretion, mental aggression. My head's a Smith and Wesson. You're messing with a lethal weapon like an evil stepdad. I got an infrared like a ginger stepkid who pissed the bed. I do this shit in jest and it's just a mess in there. Put your head. And if men wanna wear lipstick and women's underwear, who cares? The shit is there. Business not bare. Witness beware. Bitches the Blair. Which one you scared? Bitches some surreptitious and square. Business just attack my therapist with a pair of scissors like Merry Christmas. Dressed as a Harry Krishna terrorist with the hair trigger. But with these buttons I'm always pushing, pain I'm always inflicting. Protesters outside the shady office is livid. It'll make you think that you had the game unlocked till they pick it. Only way for me to explain it is I'm conflicted. Walking on eggshells like if I take it too far is this it. Part of me gets it and wants to say I'm sorry and fix it. So all my statements are basically contradictory. Like using the F word for gay is wrong and offensive. And insensitive as if me saying the R word isn't. Wait a minute, which R word? Rape or retarded digit?
Not cool.
Would this rhyme be okay if South Parker did it?
Okay, screw you guys.
Would it make you less angry if Cartman spit it?
God damn it!
And as far as what I just stated regarding midgets, you'll probably think I'll just say that I'm playing, I'm not, I meant it.
Yeah.
Swear to God, I see one of them little fuckers come at me, I'll pick it up by his legs and drop it and kick it. Marshall, your wicked face that you are addicted, but they gon' do me the same as the baby with all of this shit. Watch. Chappelle and Colin, they're calling shady misogynistic while raising three daughters. Two graduated from college with honors, summa cum laude. My sense of humor is probably twisted, it's painfully obvious.
You got an addiction, man. I know you can't get rid of me forever, cause you know that I'm prescription, man. God damn, I miss you, Slim. Hey, you got an addiction, man. I know you can't get rid of me forever, cause you know that I'm prescription, man. Next time I'll be in your veins.
I'm just playing little people.
On vient d'écouter, Habit de Eminem dans l'estival de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Et tout de suite, on accueille Guillaume pour sa chronique. Guillaume, tu nous parles ce soir d'astrologie et tu en as gros sur la patate.
Oui, Gauthier, j'en ai gros sur la patate. Alors, en effet, le mouvement des planètes n'influe pas notre pression artérielle. En effet, la distance de la Lune ne détermine pas la floraison de notre compte en banque. En effet, l'alignement des astres ne nous a pas tatoué pour le restant de nos jours notre patience, notre colère ou notre manque de charisme. Pourtant, je viens ici, à ce micro, défendre une pratique injustement décriée, l'astrologie. Trop souvent attaquée, elle doit au contraire être défendue de toutes nos forces, car non, l'astrologie n'est pas à placer au rang des inutiles. D'abord, non, l'astrologie ne nous empêche pas de réfléchir avec notre raison, elle ne fait que nous proposer une piste de réflexion. Elle est cette petite voix, l'astrologie, qui nous fait ce signe de loin, et oh, qui nous appelle à prendre le temps de réfléchir sur nous-mêmes. Par exemple, Gabriel Attal est poisson.
C'est pas un signe astrologique un peu moisi, ça ?
Mais pas du tout, Gauthier. Regarde, j'ouvre mon grimoire de l'astrologie. Les poissons sont capables de suivre les marées de la vie. Ils s'adaptent à de nouveaux environnements avec une facilité déconcertante. Alors ne t'inquiète pas, Gabi. Dans la presse, ils disent qu'Emmanuel Macron accepterait ta démission demain mardi. Mais Gabi, il s'en moque. Mardi, en septembre, avant les JO, après les JO, c'est pareil. Il est poisson, il s'adapte.
Mais on reproche souvent à l'astrologie de nous enfermer dans des vérités toutes faites.
Mais bien au contraire, Gauthier. L'astrologie nous invite à nous remettre en question, à interroger nos choix de carrière ou nos amitiés. Alors Gabriel, si tu m'écoutes, prends garde. J'ouvre mon grimoire de l'astrologie. Les poissons doivent faire attention aux personnes à qui ils font confiance. Grâce à leur nature impressionnable et empathique, il leur est plus facile de se faire avoir par des escrocs et des fraudeurs. Alors arrête de te laisser impressionner, Gabi. Ton boss a appelé tout le gouvernement à la loyauté. Ben méfie-toi quand même. N'oublie jamais que comme tu t'es senti triste et en colère quand il a dissous l'Assemblée nationale sans te prévenir. Enfin, Gauthier, l'astrologie nous permet de découvrir les facettes les plus insoupçonnées d'une personnalité. Que dit le grimoire de l'astrologie ? Les poissons débordent souvent de créativité et sont de véritables rêveurs. Et oui, chers auditeurs, vous ne saviez pas, mais notre Premier ministre, ancien ministre délégué des comptes publics, c'est un rêveur, un esprit libre, même un peu un punk. Des fois, il met des cravates rouges. Alors tiens bon, Gabi, car les prochaines semaines risquent d'être compliquées pour notre poète des hémicycles, notre barde de Matignon. Ce jeudi, l'Assemblée nationale élit son ou sa nouvelle présidente. À partir de jeudi, donc, le Premier ministre sera tenu de ne gérer que les affaires courantes. Comprenez que de l'ordinaire, du neutre, du fade. À partir de jeudi, donc, attention Gabriel, bride ta folie créative. Fini le temps où tu pouvais laisser parler tes pulsions créatives à Bercy. Fini tes projets de loi un peu foufou et franchement excentriques, comme ton majestueux projet de loi de règlement du budget et d'appropriation des comptes numéro 1095 de l'année 2022. Je l'ai lu dès sa sortie. J'ai décollé. Alors lâche rien, Gabi. Ton boss est tellement imprévisible qu'il pourrait te désigner comme ton prochain successeur. Imagine un peu, tu pourrais achever ton travail. À toi la parution de ton dernier chef-d'œuvre au prestigieux journal officiel, l'incomprise et tranchante réforme de l'assurance chômage. Quelle épopée.
Merci Guillaume pour ta chronique, et tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Pour le Zoom de ce soir, nous recevons Moudiama. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Simon, c'est toi qui vas mener cet entretien. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Je te laisse notre invité.
Que de cordialité, c'est super. Bonsoir Moudiama. On va se tutoyer évidemment, ouais. Puisque on se connaît. Tu es une voix de Radio Campus Paris. Et c'est d'ailleurs, on va parler d'un événement made in Radio Campus Paris. On adore l'autopromo. Je précise avant de commencer l'interview, je vends des choux de Bruxelles, place Monge, samedi en 8. Hein, comme ça, tout le monde fait son autopromo. L'événement s'appelle The Beat the Culture Summer Edition. Mm-hmm. Pardon pour l'accent, j'ai du mal à passer de l'anglais au français facilement. C'est le 18 juillet, donc c'est ce jeudi de 18h à 23h, yes. À La Place, qui est le centre culturel hip-hop au 10 passage de la Canopée à Paris. Donc c'est un événement de 5 heures que tu organises dans le prolongement de l'émission que tu as proposée à Radio Campus Paris, un lundi tous les 2 mois à 20h. Donc habituellement, du coup, si tu parles une heure tous les 2 mois au micro avec des invités. Et là, c'est 5 heures d'émission d'un coup.
Ouais.
Là, on est sur une grosse rupture. Est-ce que ça se prépare différemment ?
Ah, totalement. Ouais. Ça se prépare différemment, déjà parce que le format est différent. D'habitude, pendant l'émission, donc en une heure, je vais inviter un beatmaker, un artiste. Et en deuxième partie, je vais inviter une personne qui fait la promotion d'un événement afro-culturel ou alors quelque chose d'afro-culturel. Et on va juste discuter simplement des actualités, de la manière de travailler, etc. Là, déjà, ça va être des talks. Ça veut dire qu'il y a un sujet à préparer. Il y a plusieurs personnes, plusieurs interactions. Et les musiques que je passe d'habitude, je passe des musiques pendant l'émission. Là, ça va être des showcases. Donc, on va vraiment avoir des artistes live. Et donc, ça, c'est pour ça que la préparation, elle est totalement différente. Et à la fin, dans les 5 heures, il y aura aussi un DJ set.
Il y a énormément de choses, effectivement. Yes. Il y a des workshops aussi, je ne sais pas si tu l'as dit aussi.
Oui.
C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu crées des échanges dans l'émission et là, tu vas faire du talk parce que, effectivement, quand on écoute l'émission, tu as une capacité à créer des discussions qui sont hyper fluides. Enfin, c'est toujours hyper agréable d'écouter. Je le dis en tant qu'auditeur personnellement. quelle est la différence, justement, entre créer cet échange qui est très naturel et qui finalement t'amène quand même à parler d'actualité et parler d'énormément de sujets avec tes invités. Et là, justement, la donnée de préparation que tu vas avoir sur les sujets, je ne sais pas si tu peux nous teaser quelques sujets qu'il y aura de discussion jeudi.
Bah ouais, bien sûr. Alors, il y aura un sujet sur le beatmaking, un sujet sur la culture afrodescendante. Le premier sujet, ce sera sur l'intelligence artificielle, ami ou ennemi des beatmakers.
Okay.
Allié ou ennemi des beatmakers. Et le deuxième sujet, ce sera, est-ce que le fait d'être un artiste afro donne forcément l'obligation, on va dire, de représenter la culture afro ? Et donc, ces sujets-là, je les ai choisis parce que c'est des sujets que j'ai énormément avec mes amis, que ce soit mes amis afrodescendants ou mes amis beatmakers. Et on peut vraiment passer des heures à parler dessus. C'est des sujets de débat, c'est un peu des sujets de tension, des fois. Là, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir cette conversation-là face à des gens et de pouvoir donner différents points de vue, tout simplement. Donc, ouais, sur ça, ça permet d'avoir des échanges sur ces sujets-là, quoi.
Et la différence, justement, avec les échanges que tu crées habituellement dans The Beat the Culture, c'est justement... Tu sais que tu vas parler de ça et tu lances un débat autour de ça. Enfin, ce sera tous les invités qui seront là en même temps, de la programmation aussi. Enfin, comment tu fais la différence avec ce que tu fais d'habitude, justement ? C'est juste tu te mets sur un Google Drive et tu écris ou il y a un état d'esprit qui est différent ? Comment ça se passe ?
D'habitude, pour les épisodes donc, que je fais d'habitude et qui sont dispo
sur Radio Campus Paris,
oui, sur Radio
et
Campus
les applications
Paris,
voilà. De podcast.
Exact. D'habitude, je me laisse aller un peu dans le flux de la conversation par rapport au profil des artistes aussi. C'est vrai que je vais me renseigner en amont, histoire que chaque émission puisse être différente et que chaque émission soit un peu orientée différemment en fonction soit de l'esthétique musicale, soit des engagements des artistes que j'invite, ou alors simplement de la manière de travailler qui diffère. Et donc on va, je sais que naturellement on va aller vers ce sujet, mais j'ai pas particulièrement, enfin je laisse la conversation aller. J'aime bien que les choses aient l'air justement d'une conversation, que les gens soient à l'aise. Les beatmakers par exemple sont connus pour être timides entre guillemets, donc du coup là le fait de juste être détendu et discuter comme on discute souvent, enfin à la fin de session, c'était l'idée de l'émission aussi quoi. Là la différence, ça va être qu'il y a un sujet. Comme il y a plusieurs personnes et que c'est la radio, donc ce sera en live en plus, donc il y a un temps limité, on va quand même essayer de cadrer la discussion sans l'orienter de manière stricte, mais quand même de donner un cadre pour pas qu'on parte dans tous les sens. Ouais.
Et sur le line-up de jeudi, donc il y aura Sharky et Bramso, le plug,
yes.
Il y aura Noura on the track, ouais. Et un DJ set de Isturgirbo.
Isturgirno.
J'ai très mal écrit sur ma fiche, vraiment, il faut que j'arrête d'écrire à la main. Est-ce que tu as prévu toutes ces personnes, justement, des sujets qui allaient être abordés, ou est-ce que tu prévois, enfin, comment tu prépares l'émission justement avec ces personnes-là, avec toutes les personnes qui seront au micro jeudi?
Alors tu vois justement, Bramso et Sharky, ils vont faire partie du talk sur les beatmakers IA, particulièrement parce que Bramso, il a déjà une approche de l'IA, il a déjà utilisé dans des projets, justement parce qu'il voulait démontrer quelque chose. Je vais pas spoiler, du coup on va en parler jeudi, venez jeudi.
C'est à 18h hein.
Ouais, jeudi 18h.
À la place.
À la place. 10 passages de là.
Canopée.
Merci.
Hey. Et Noura, elle va aussi participer au talk sur la culture afro. Elle-même, elle est afro-descendante, donc de plusieurs cultures différentes aussi. Et elle compose sa musique aussi avec des influences culturelles afro et toutes les influences qu'elle a. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir son point de vue. Donc en fait, les artistes qui sont invités en showcase vont faire partie du panel des talks aussi.
Et le showcase, parlons-en justement, puisque ça c'est la grande nouveauté de cette Summer Edition par rapport aux émissions qui sont disponibles en podcast et qu'on peut écouter à la radio. C'est qu'il va y avoir du live. Comment justement, on parle de ton talent d'animatrice et de discussion, de création d'échanges avec des invités. Comment on passe de ça à programmatrice? Est-ce que on a une vision? Est-ce qu'on trouve des invités différemment quand on doit juste les interviewer ou quand on doit leur proposer aussi des showcases? Comment s'est déroulé le processus pour créer ce line-up qu'on retrouvera jeudi?
C'est vrai que tu as bien fait de dire programmatrice, parce que c'est un peu le rôle que j'ai endossé dans ma recherche d'artiste, on va dire.
Animatrice, ce sera que jeudi au final. Enfin,
c'est ça, ouais, non, c'est, mais ça, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est vrai que c'est un peu différent de programmer des invités pour une émission, donc en interview, et vraiment de programmer des artistes pour un showcase. Ça s'est joué sur... à la fois la cohérence avec l'émission et aussi en vrai tes coups de cœur, c'est des artistes que j'aime bien personnellement que je trouve intéressant, je trouve qu'ils ont quelque chose à dire. À l'origine, j'avais prévu qu'ils fassent uniquement des showcases, qu'ils participent pas forcément au talk, mais c'est en réfléchissant au sujet des talks et en échangeant avec co-anime qui sera Fabrice, qui fait aussi partie de Radio Campus Paris, qu'on s'est dit, mais en fait, ça serait vraiment intéressant de les intégrer au talk également. Donc, c'est vrai que ça se prépare différemment, mais tout se recoupe.
Oui, d'avoir quelque chose d'un peu organique aussi pendant les 5 heures et que ça passe de manière aussi fluide. Nouveau compliment pour l'émission, enfin, que tu veux garder cette fluidité-là, en tout cas. Ouais.
C'est ça.
Donc, il y a les showcases, il y a les talks, mais il y a aussi des workshops, il y a aussi un blind test qui sera à l'antenne aussi. Hein, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ces workshops et ce blind test? Qu'est-ce qu'il faut réviser?
Le workshop, rien. C'est fait pour initier au beatmaking. Donc, tu viens avec ton ordi, ton casque, ton chargeur et la version gratuite de FL Studio qui est téléchargeable sur. Tu tapes sur Google, quoi. et t'as rien à savoir de plus, même si t'as jamais fait de musique. Vous serez encadré par une super beatmakeuse qui s'appelle Kimi Q et qui est hyper pédagogue et très très forte. Elle est beatmakeuse depuis bientôt 7 ans. Donc, elle gère de ouf. 3 heures, ce sera pas à l'antenne, ça par contre. Ce sera l'après-midi. Et après, pour le blind test, ça ressemblera un peu au blind test que j'ai fait lors de la dernière émission de The Beats of Culture. C'est-à-dire que ce sera un blind test simple. Donc à chaque fois, je donne toujours le même exemple. Par exemple, on va passer I Got a Woman de Ray Charles et il faudrait être capable de deviner Gold Digger de Kanye West et Jamie Foxx, par exemple, voilà. Ou okay. Dans l'autre sens.
Bah, on a hâte d'écouter ça pendant 5 heures. Bah, il est déjà l'heure de se quitter. Juste parce que là, je suis avec deux personnes qui sont très adeptes de comédie musicale, c'est-à-dire qu'il y a Gauthier au micro et Justine. Est-ce qu'il y a un petit numéro qui est prévu jeudi ou est-ce qu'on peut ou pas du tout?
Hélas, non.
Pas
hélas, non.
Eh bien, c'est déjà super de toute façon la programmation qu'on aura. Merci beaucoup, Moody Hama, d'avoir été au micro de la matinale de 19h. The Beat the Culture Summer Edition, c'est à la place le centre culturel hip-hop de Paris au 10 passage de la Canopée. C'est à Châtelet-Léal, voilà, pour les gens qui prennent le RER. Bon courage à vous. et je me mets dedans. Et à jeudi. Merci beaucoup.
À jeudi.
Et ben merci beaucoup, Moody Hama. Merci beaucoup, Simon. Et tout de suite, on va écouter une artiste dont tu as parlé, Moody Hama. On va écouter Noura on the Tracks avec Cœur Brisé.
Noura on the Tracks.
Tu comprendras que dans des années, joujou avec mon cœur, tu vas le casser. Tout ce que t'as fait, ça partira jamais. Non. J'ai tellement mal au cœur que j'en ai des nausées là. Tourne, sors de ma tête, toi. Je t'ai donné mon cœur, moi. Je m'attendais pas à tout ça. Toujours en main dans la Tesla. Si ça l'amour, j'en veux quoi. Je préfère me noyer dans d'autres bras. Bah ouais. Souvenir de la veille me laisse un goût amer. Quand je repense à nous deux dans le bed, je te jure, je sais plus quoi faire. Je paye pour les erreurs des ex, mais allez, ça va avec. On ne réparera pas mes plaies, mais voilà que je serai avec.
Moi que je serai avec, façon de l'habitude. D'avoir le cœur brisé, d'avoir le cœur troué. D'avoir le cœur tué, façon je serai.
La crise d'identité, l'amour c'est compliqué, ouais. Tellement de sacrifices, tellement de sacrifices, ouais. Y'a pas de toi sans moi, mais je crois bien que c'est dingue. Pas de raison de se revoir, je vais plus jamais te revoir. Ouais. Tellement d'années dans la merde, ouais. Jamais je referai le test, je me sentirai bien même sans toi. Plus jamais je reviendrai près de toi. Je vais plus jamais, jamais dire toi. Bah ouais, pousse-toi, je serai plus jamais ton mouchoir. Souvenir de la veille me laisse un goût amer. Quand je repense à nous deux dans le bed, je te jure, je sais plus quoi faire. Je paye pour les erreurs des ex, mais allez, ça va avec. T'en répare pas mes plaies, mais voilà que je serai avec. Souvenir de la veille me laisse un goût amer. Quand je repense à nous deux dans le bed, je te jure, je sais plus quoi faire. Je paye pour les erreurs des ex, mais allez, ça va avec. T'en répare pas mes plaies, voilà que je serai avec.
C'était Cœur Brisé de Noura on the Track sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Et il est 19h53, je reprends les clés de cette émission, tel un passe-partout des ondes de Radio Campus Paris, rapport à Fort Boyard, je ne sais pas si vous l'avez. Le temps d'accueillir quelqu'un qui n'a pas du tout pris la parole depuis le début de cette émission, et ça tombe bien parce que ça nous aurait bien gonflé, Gauthier pour sa chronique.
Bonsoir, cette semaine c'est ma deuxième... première chronique de l'année dans, dans l'estival de Radio Campus Paris. Bon, je sais que je vous ai un peu menti la semaine dernière. À la place de venir en studio faire ma chronique, j'ai envoyé un robot à mon effigie en le faisant passer pour le vrai moi. Bon, il était un peu défectueux, on a dû couper court à la chronique parce que j'avais oublié de charger la batterie. Mais cette semaine, j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment moi. Gauthier, officiellement, en chair et en os. Même si pour des raisons personnelles, je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas me croquer les bras, l'oreille ou aucune autre partie du corps. Je vous remercie.
C'est dégueulasse.
Maintenant, passons à ma chronique. Dans quelques semaines, c'est les Jeux Olympiques. Je ne sais pas vraiment si vous êtes au courant. Perso, j'ai appris ça ce matin. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle parce que ça a l'air d'être quand même un événement historique. Enfin, de ce qu'on m'a dit. Je sais pas trop si je vais pouvoir y aller parce que bon, s'il fait trop chaud, c'est pas forcément une bonne idée pour ma santé. J'aurais peut-être pu participer, mais je sais pas vraiment dans quel sport j'aurais pu exceller parce que si je transpire, je fais pas long feu. La natation, laissez tomber. Avec toute cette eau, je risque de pas m'en relever. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sinon, alors là, je suis foutu.
Mais ça va, Gauthier, là, tu vas pas fondre, là, t'es pas en sucre non plus.
Quoi ? Bah si. Non !
Cours Florent.
Non ! Non, je suis pas, pas en sucre, je suis en peau. Pourquoi tu dis ça, je pense que je suis en sucre.
Non, mais tu... Bah, ceci dit, tu me fais douter.
Maintenant. Non, mais n'importe quoi. Non, mais c'est vraiment bizarre de croire que je suis en sucre. Non, mais oh, t'as complètement déraillé, Simon. et toi, t'es de la pâte à sel, peut-être, quoi. mais m'accuser d'un tel truc, tu sais que c'est grave. Je pourrais porter plainte pour diffamation. Merde. Je suis pas en sucre, putain. J'en ai marre, ça s'arrête jamais. Depuis ce matin, on m'accuse d'être en sucre parce que je laisse des petites traînées blanches derrière moi. Vous savez pas ce que j'ai vécu. C'est dangereux, des remarques comme ça. Et si j'étais cocaïnomane, vous feriez moins les malins avec vos accusations. Vous me rendez malade. C'est pas vivable, des accusations comme ça. En 2024, on doit justifier tout ce qu'on fait. Moi, j'ai des traumatismes dont j'essaye de faire abstraction au quotidien. Et en permanence, on me renvoie à ça. J'en ai marre. J'avais entendu des bons trucs sur Radio Campus Paris. Vous aviez une bonne réputation. Je savais pas que vous traitiez vos chroniques comme ça. C'est honteux, c'est inadmissible.
Mais Gauthier, je comprends pas. Ça fait plus d'un an que t'es là. T'es censé savoir comment les chroniqueurs sont traités. Gauthier, bon, je rêve, t'es en train de fondre là. Oh putain, ça me donne faim. Oh ton bras, il a l'air riche en vitamine B. Oh et l'oreille.
Non, arrête, c'est pas marrant. Ça fait mal. Arrête.
Parle dans le micro, Justin.
On peut vraiment compter sur personne, c'est pas vrai. Ils avaient dit aucune sensibilité dans la pub, là ça fait même pas 2 minutes et c'est en train de chialer.
Vous m'entendez?
Oui, c'est Gauthier. Bon, c'était pas vraiment moi, c'était un gâteau au chocolat. Je travaille encore sur ma chronique, j'avais besoin de gagner un petit peu de temps, j'ai demandé à un pote pâtissier de me faire un gâteau au chocolat à mon effigie. Mais normalement, promis, c'est à cette fois, d'ici la semaine prochaine, ça devrait être bon. Alors, à lundi prochain, pour ma première chronique en présentiel. Salut.
Salut Gauthier. Enfin, ou le gâteau... Salut le gâteau au chocolat ou salut Gauthier? J'ai pas compris le...
Je ne ferai pas de commentaires outre mesure.
D'accord. Et outre manche non plus.
Et outre manche, ça risque peut-être un peu plus d'arriver.
Bien sûr.
En tout cas, c'est la fin de la matinale de 19h de ce soir, de l'estival même de 19h, il n'y a plus aucune règle. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.
Il n'y a pas de générique, donc tu peux dire ce que tu veux.
Merci à Guillemette Soukaché, Moody Hama d'être venu pour les interviews. Merci à Lucie et Simon pour les interviews, pour avoir pris en charge les interviews.
Pour avoir posé les questions.
Merci à Guillaume pour sa chronique. Et enfin, un grand merci à Gabriel et Marie pour la coordination et surtout à Clément pour la réalisation. Quant à l'estival de 19h, c'est terminé pour ce soir et même pour cette semaine. Mais pas de panique, on se retrouve lundi prochain, mêmes airs, mêmes ondes, pour la toute dernière émission de la saison. Bonne soirée.